Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte des nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Quand on a l'impression que la situation du monde empire d'année en année, il suffit de se replonger dans les textes bibliques pour se rendre compte que la guerre et les violences humaines ont toujours existé. Et ont toujours été dénoncés. En cherchant les textes les plus appropriés pour aujourd'hui et en lisant celui d'Ésaïe, j'ai évidemment pensé à la situation terrible qui se joue entre les gouvernements d'Israël et d'Iran, tandis que la population de la bande de Gaza souffre en silence et nous en assiste impuissants à tout ça. La mer et l'océan, dans leur tumulte et leur puissance parfois destructrice, reflète la violence humaine dans les textes des prophètes. Oui, nous sommes toujours dans le tumulte, malgré les avancées extraordinaires des connaissances scientifiques depuis l'écriture de ces textes il y a 2500 ans. Et si j'ai voulu mettre l'accent aujourd'hui sur cet élément de la nature et de notre environnement, c'est pour assumer notre responsabilité de créature de Dieu vis-à-vis de notre Créateur, vis-à-vis des autres créatures, bien sûr les humains, mais aussi les animaux, les plantes et les minéraux. Nous croyons que Dieu est à l'origine du monde et qu'il l'a désiré, qu'il l'a voulu pour nous le donner comme cadre de vie. Et pour ma part, je ne peux pas laisser uniquement aux non-croyants le soin de lutter pour la durabilité de notre planète. Je crois que les chrétiens ont une parole à dire, des actions à mener, une responsabilité devant Dieu et devant les humains. Combien de guerres ont déjà eu lieu pour l'accès à l'eau? Combien d'injustices dans le monde aujourd'hui à cause du dérèglement climatique? Et combien de guerres auront lieu à l'avenir sur le partage des biens qui s'amenuisent année après année? Écoutez pour connaître, parler pour partager la prise de conscience et encourager toutes les initiatives qui rassemblent et permettent de se mettre d'accord sur la protection de ce bien unique dont nous vivons à tous les instants, à commencer par l'air que nous respirons. Vous l'avez sans doute entendu cette semaine. La troisième conférence des Nations Unies sur l'océan s'est tenue à Nice du 9 au 13 juin, donc cette semaine, et elle était co-organisée par la France et le Costa Rica, les gouvernements de France et Costa Rica. Et le thème central était accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan. Il y a urgence à renforcer les efforts pour protéger l'océan, les mers et les ressources marines dans une perspective de développement durable. Cette conférence visait à identifier des solutions innovantes et à promouvoir des actions concrètes pour atteindre les ambitions fixées par l'objectif de développement durable. Elle a constitué également une plateforme pour consolider les partenariats existants, en créer de nouveaux et accélérer la mise en œuvre des processus en cours en contribuant, des processus contribuant à la préservation et à l'utilisation durable des écosystèmes marins. Et le président français a annoncé que plus de 60 pays se sont engagés à ratifier avant septembre le traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine. Et évidemment, je vous invite à aller voir les sites internet dédiés à ce sujet. Se mettre ensemble a déjà mesuré largement son efficacité. Souvenez-vous du trou de la couche d'ozone qui a été réduit grâce aux efforts de la plupart des pays concernés. De même, pour protéger le thon qui était en voie de disparition, les quotas limités de la pêche lui ont permis de revenir à un développement durable, c'est-à-dire qui va nous permettre de manger du thon encore pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on connaît encore très mal ce qu'il y a sous la surface des eaux, de la mer et des océans. Ils couvrent pourtant 70% de notre planète et moins de 10% des fonds marins sont cartographiés, donc sont connus, et 2% des espèces sont connues. Ces lieux inconnus étaient encore plus inconnus autrefois, et notamment pour le peuple d'Israël. Pour eux, ce peuple, ils étaient le symbole du danger, en fait. Les eaux donnent des limites au continent, ce sont des frontières et des repères, et on le voit dans les textes bibliques. Et dans les écrits, eh bien, les monstres marins sont évoqués pour montrer en même temps la peur qu'on avait de la profondeur des eaux inconnues, et en même temps que Dieu en est le créateur, et que Dieu reste le maître. Il reste le maître de toutes choses. Par exemple, nous avons Dieu qui ouvre la mer des joncs pour laisser passer le peuple d'Israël qui fuit l'Égypte. Dans l'histoire de Jonas, Dieu fait venir un gros poisson pour le sauver, alors que le prophète est jeté dans la tempête. Et puis, eh bien, dans le Nouveau Testament, que fait Jésus avec l'eau ? Il marche sur l'eau. Moment mystérieux, mais pour montrer justement que cet élément ne lui fait pas peur, et puis il va apaiser la tempête. Nous avons entendu dans le texte d'Ézéchiel que les océans et les mers servaient à circuler et à transporter des biens. Alors il y a eu cette prophétie contre Tyr, donc une ville du sud Liban et qui était à l'époque une grande cité phénicienne. Ça a été la maîtresse des mers pendant de nombreux siècles et elle a prospéré jusqu'au temps des croisades. La prophétie contre Tyr montre que l'orgueil de la réussite peut rapidement voiler le regard. Le naufrage guette sans qu'on sache d'où il va venir, ni quand. Et je me suis dit que c'était une réflexion bien actuelle. La toute-puissance humaine est bien partagée sur notre planète. Elle se manifeste aujourd'hui avec des outils extrêmement dangereux, plus puissants qu'autrefois, parce qu'ils sont à l'image de la planète mondiale. On a des échanges dans la mondialisation. Alors oui, dans notre monde, on a fait beaucoup de progrès, et tant mieux pour avoir la vie plus facile. On vit bien plus longtemps qu'autrefois. Mais on n'a fait aucun progrès en ce qui concerne l'orgueil des humains. Le prophète Jérémie dit ainsi, « Toi qui habites près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, ta cupidité est à son terme. » Et du coup, Jésus y fait écho dans une autre traduction que celle que nous avons entendue. « Voyez, attention, et gardez-vous de toute avidité. Ce n'est pas du fait que quelqu'un est dans l'abondance que sa vie est garantie par ses biens. » Et ensuite, Jésus raconte l'histoire de la parabole de l'homme qui amasse des récoltes et qui veut les mettre dans... Il veut construire des greniers plus grands pour profiter de la vie sans travailler. Mais il va mourir la nuit suivante. Et Jésus dit, voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Alors quand Jésus raconte cette histoire, il parle à échelle humaine, comment la transposer à l'échelle de la mondialisation, où tout est lié. L'avidité n'arrive pas d'un coup. Et si je faisais un sondage, tout le monde est contre l'avidité. Le développement de toute la vie est un défi. Trouver un travail, devenir autonome, fonder une famille, nos préoccupations tournent autour de tous ces soucis. Et on essaye de s'en sortir le mieux possible. Nous avons des choix, des tournants. De temps en temps, on se pose pour En effet, réfléchir à notre vie, voir tout ce qu'on a accompli et comment est-ce qu'on continue. Parfois, on peut avoir l'opportunité d'avoir un poste mieux payé, plus intéressant, parfois plus stressant aussi. Il est difficile parfois de faire des choix, car la confiance que Dieu nous demande d'avoir en lui passe souvent au deuxième plan. Bien sûr, Dieu ne va pas travailler à notre place, mais il peut aussi avoir une action pour nous dans nos choix. L'avidité ne vient pas d'un coup. Elle vient quand on en a la possibilité, quand on peut. Par exemple, s'acheter plus de biens, quand notre consommation est plus libre, moins limitée, parce que notre sensation de liberté s'exerce principalement dans ce qu'on peut acquérir. Des biens, des loisirs, des voyages. On peut le faire, alors on le fait. Il y a un élément qui n'existait pas à l'époque biblique concernant les mers, c'est l'exploitation des fonds marins. La pêche industrielle racle les sols, détruit les habitats et beaucoup d'espèces. Mais ça, à notre échelle locale, on ne s'en rend pas compte. Quand j'achète mon poisson, ce n'est pas écrit sur la boîte ou au marché. On ne va pas me le dire, ça. C'est à nous de faire l'effort, de se renseigner, de poser des questions. Et heureusement, beaucoup d'instances nous alertent. Des personnes consacrent leur temps à cette vigilance. Des médias nous donnent des informations. Il y a maintenant plusieurs propositions pour acheter des produits de la mer de façon à préserver durablement les fonds marins. J'ai découvert un truc qui s'appelle Poiscaille, par exemple. On trouve tout sur Internet. Et dans toutes les dérives humaines, dans tous les excès humains, eh bien, il y a toujours des balanciers et des personnes qui travaillent à ce balancier pour équilibrer les choses, des personnes qui réagissent pour nous aider à être des acteurs responsables de notre consommation. Alors, être chrétien, c'est savoir que toute vie est limitée. La planète qui nous nourrit est limitée et notre propre vie va s'arrêter un jour pour laisser la place aux générations suivantes. Et pourquoi en particulier les chrétiens? Parce que Jésus vient nous aider à accepter nos limites. Et tout fils de Dieu qu'il était, il a accepté de souffrir et de mourir. Et il nous aide à accepter nos limites parce que du coup, Dieu ne l'a pas laissé dans la mort, mais l'a ressuscité, l'a rendu vivant, lui a donné à lui et à nous une espérance et un avenir bien différents. Mais, tant que nous sommes sur Terre, nous avons cette responsabilité et de consommer avec sobriété. Ce n'est pas parce que je peux acheter telle ou telle chose, que je peux faire tel ou tel voyage, que je dois le faire. À quoi ai-je envie de céder? À quelle pression? À quelle envie? Je pourrais aussi parler de l'avidité dans d'autres domaines, dans le pouvoir, dans les relations humaines, pouvoir de domination des autres peuples, mais aussi du pouvoir sur l'autre, que je ne considère plus comme une personne, mais comme un objet à supprimer ou à opprimer. On l'a vu récemment, malheureusement, avec ce jeune qui a juste tué. Jésus nous invite à tourner les yeux vers la richesse qu'on trouve auprès de Dieu. Si l'on met notre confiance en lui et qu'on l'entretient par la prière, alors la richesse spirituelle est un socle qui nous accompagne toujours jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'au moment où on ne peut plus rien faire. Ce socle nous permet de ne pas avoir peur de manquer et de nous tourner vers les autres. Jésus a utilisé l'image de la pêche miraculeuse pour parler de l'abondance qu'on trouve en Dieu. Ce n'est pas une pêche pour être dans le toujours plus, mais une pêche qui parle de partage et de générosité. C'est avec ce mot de partage que j'aimerais conclure. Si j'accepte d'être sobre dans ma consommation et de trouver des moyens de peser le moins possible sur la planète, eh bien, c'est pour vivre en conscience que d'autres ont les mêmes besoins que moi sur une planète limitée. Ces autres personnes sont aussi aimées par Dieu. C'est ma manière aussi de les aimer. Alors oui, vivons dans la confiance et dans le partage de nos océans et de notre planète. Amen.